Voilà, mes amis, on reprend notre magnifique discussion avec mon grand ami Eliaou Bokara. Et on va terminer aujourd'hui le texte dans le Likoutei Moharam. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais lire, traduire, expliquer un minimum, juste pour avoir un minimum de compréhension du texte que l'on termine aujourd'hui. La semaine prochaine, on passera à un nouveau texte. Et après, on rentre vraiment dans l'explication profonde avec Eliaou. Alors, on est tout en bas, les deux derniers mots du premier passage. Terhef kesherotze leiler bederer. Donc, Rabbi Nachman reprend tout ce qu'il vient d'expliquer maintenant, mais il va rajouter une ou deux notions tout à fait extraordinaires. Il dit la chose suivante. Quand un homme veut avancer sur le droit chemin, ça veut dire il prend conscience que jusqu'à aujourd'hui, il vivait n'importe comment et comme n'importe qui, et qu'aujourd'hui, vraiment, il veut se prendre en main et il veut avancer sur un chemin droit. La première chose qu'on lui demande, c'est d'avoir la crainte. Ça veut dire la crainte. Pour l'instant, j'explique à un niveau très superficiel avec Elia, où on verra les choses de manière beaucoup plus profonde. Mais il faut avoir la crainte, ça veut dire savoir que Hachem est là, dans ce monde, qu'il te voit, qu'il comptabilise, que tu n'es pas déconnecté du regard et de l'intervention d'Hachem. C'est la première étape pour véritablement commencer à avancer droit, de savoir qu'il te regarde et il peut te juger. C'est ce qu'il va dire tout de suite. Anikrat Tzedek, cette crainte qui est la première étape pour avancer dans un chemin droit, s'appelle Tzedek, s'appelle la justice. C'est-à-dire savoir que Dieu rend justice. Ou Betzedek Ketiv, et au sujet de la justice, il est dit, Ve'u Yishpot Tevel Betzedek, Hachem juge le monde avec justice. Et donc il explique les fichards, c'est pour cette raison que dès qu'un homme prend sur lui cette crainte et cette justice, Mit Orerim Alav Dinim, immédiatement il est lui-même jugé, puisque tu acceptes que Hachem juge le monde. Donc automatiquement, tu vas être jugé, comme jusqu'à aujourd'hui, tu as fait énormément d'erreurs, et même maintenant que tu te prends en main, forcément, tu feras encore des erreurs. La différence entre toi maintenant et quelqu'un qui n'a pas eu cette prise de conscience, c'est que, entre parenthèses, quelqu'un qui n'a pas eu cette prise de conscience, Hachem ne s'occupe pas de lui, sauf si vraiment il est dangereux, mais tant que plus ou moins il vit comme un idiot, il n'intéresse pas le maître du monde, qu'il continue à vivre comme un idiot. Mais à partir du moment où tu te prends vraiment en main, à ce moment-là, Hachem va constamment te juger de manière à assurer que tu continues véritablement à rester sur le droit chemin. Donc c'est la raison pour laquelle, dès qu'un homme revient vers Hachem, automatiquement, lui tombe dessus toutes sortes d'épreuves, toutes sortes j'aime pas le mot punition, mais bon, je vais le dire quand même, toutes sortes de punitions qui sont là pour le cadrer. Ah, que chez Ba et la Emet, mais après la deuxième étape, c'est d'atteindre la vérité. Et là, Eliaou, réfléchis bien parce que c'est toi qui vas nous l'expliquer. La deuxième étape, c'est d'atteindre la vérité. Dans la première étape, il n'est pas encore dans la vérité, il est dans la crainte. La deuxième étape, qui est la plus haute, c'est d'atteindre la vérité. Ça, il n'en a pas encore parlé. Aïnou, qu'est-ce que j'appelle la vérité, dit Rabbi Nachman? El Aïra Anikra Emouna. C'est le niveau de crainte que j'ai appelé dans le précédent passage la Emouna. Ça veut dire une connexion totale, irrationnelle, surnaturelle avec le maître du monde. Az, à ce moment-là, quand un homme, grâce à la vérité, atteint la véritable Emouna, Az, koladinim nimtakim beshorsham, tous les jugements qui étaient sur lui s'adoucissent. Vezehu, et c'est ce qui est dit, Titen emet le Yaakov. Dieu a donné la vérité à Yaakov, et Yaakov représente le premier niveau de la crainte, qui est la justice. Et après, il est dit, Chesed le Avraham, il a donné la bonté à Avraham, c'est le deuxième niveau où tous les jugements, on pourrait dire, s'adoucissent. Qui Avraham, Nikra, Misheva, et Davek, et Tatsmo, la Shemidbara, parce qu'Avraham représente celui qui se colle de toutes ses forces au maître du monde. Une connexion qui s'appelle la Emouna grâce à la vérité et qui est complètement au-dessus de l'entendement et qui adoucit toutes les rigueurs que le maître du monde exerce sur celui qui commence à avancer. Et je termine, je saute une phrase ou deux, mais je termine. Kevan de Itraver Emet Beade Ikre Emuna. Pour atteindre la Emuna, tu dois avoir le Emet. Vechol Tivo Vechol Nurashayebe. Et quand un homme, grâce à la vérité, atteint la Emuna, à ce moment-là, toutes les lumières du maître du monde reposent sur lui. Et il est complètement, on pourrait dire, d'une certaine manière, lavé de toutes les rigueurs qui étaient sur lui. Et il rentre dans un monde de lumière, dans un monde de sagesse, dans un monde de connexion avec le maître du monde, Atkan. Alors, la première question que je te demande, Eliaou, c'est la suivante. Jusqu'à présent, Rabbi Nachman n'avait pas parlé de Emet. Il avait parlé du premier niveau de Yira, qu'on appelle les rigueurs. Deuxième niveau de Yira, qu'on appelle la Imuna. Et il n'avait pas parlé de Emet. Mais là, sans expliquer, bien qu'en vérité, dans d'autres endroits, dans l'Ilkoutei Moharam, Rabbi Nachman explique comment la Emouna est liée au Emet, mais je te demande à toi, pourquoi tout d'un coup maintenant il a introduit la notion de Emet? Et la première question que je te demande, c'est qu'est-ce que c'est le Emet? Qu'est-ce que c'est la vérité? C'est quoi? Puisqu'il dit que sans Emet, tu ne peux pas arriver à la Emouna, tu ne peux pas arriver à une connexion, on pourrait dire surnaturelle avec le maître du monde. Comment tu comprends toi la notion de Emet, Eliaou?
Alors si j'ai bien compris, au démarrage, donc, il y a une crainte qui va se former par, entre guillemets, un boomerang, entre guillemets, c'est un mauvais mot, mais de punition. Comme on est une force créatrice, on va se confronter à un retour de, entre guillemets, de punition. Ce qui fait qu'en fait, quand on a une prise de conscience, on a une capacité. En fait, le maître du monde nous ouvre la porte. Maintenant que tu as pris conscience, je vais te faire passer certaines épreuves pour te nettoyer de certaines choses, pour que tu puisses t'élever. Donc après ces épreuves, on arrive à un niveau de
émoi. Une question simple, mais surtout pour nos auditeurs. Pourquoi les épreuves élèvent l'homme et pourquoi les épreuves sont-elles à ce point nécessaires? Tu dis pour se nettoyer, mais explique mieux. Pourquoi les épreuves nettoient l'homme? Pourquoi les épreuves élèvent l'homme? Ce sont les deux mots que tu as utilisés, nettoyer et élever. Pourquoi?
À mon avis, ça devient une connaissance expérimentée. Tant que ça reste du domaine de l'âme, il n'y a pas encore eu l'expérimentation. Pour qu'il y ait une expérimentation, il faut que l'âme et le corps expérimentent par l'épreuve pour que ça devienne un savoir acquis. Sinon, ça reste qu'une seule théorie. Donc, il n'y a pas le but de descendre dans ce monde. Le but de descendre dans ce monde, que l'âme descende, c'est qu'elle rentre dans un corps, elle rentre dans la matière, elle rentre dans ce monde. Donc, pour pouvoir expérimenter, il faut passer par une épreuve. C'est comme ça que je vois les choses.
Mais encore une fois, je te comprends tout à fait, tout ce que tu dis, c'est 100% juste. Mais pourquoi l'épreuve est le critère pour que ma théorie devienne une réalité? Ma théorie, c'est-à-dire ma croyance en Dieu devienne une réalité. Pourquoi? Pourquoi l'épreuve est ce qui me fait finalement transformer la théorie en pratique? Pourquoi?
Alors, il y a une loi qu'on appelle la loi de l'hormèse. La loi de l'hormèse, c'est de soumettre le corps humain un stress mesuré qui permet donc au corps de devenir plus fort face à ce stress. En fait, il y a une adaptation du corps qui va permettre au corps de devenir beaucoup plus fort et donc du coup de se renforcer. Donc à mon avis, on n'est pas...
Explique Eliaou, je reprends tes mots, c'est qu'en vérité, le but de l'épreuve, et on l'avait vu déjà dans ce texte-là, c'est d'amener des forces à l'homme, parce que s'il s'écroule, ça veut dire qu'il n'a pas de force, s'il la surmonte, il est fort. Donc, finalement, ce que tu es en train d'expliquer, c'est que on peut dire la concrétisation de la croyance, c'est être un homme fort.
Exactement, c'est d'être un homme fort. Et on est d'accord que, selon la Torah, chaque épreuve qui nous vient, on a la capacité de la surmonter. Donc, ça a un lien avec la loi de l'hormèse. L'hormèse, c'est un stress qui doit être. Donc, il y a un stress au niveau des muscles, au niveau physiologique, au niveau biomécanique. Mais ça doit être un stress mesuré qui nous permette de le dépasser, qui ne doit pas être trop choquant. Donc chaque épreuve d'Hachem, vu qu'on avait dit sur le premier cours qu'Hachem peut-être comparé à un entraîneur, à un méamène, il va nous faire subir un certain stress pour qu'on puisse traverser cette épreuve et en sortir renforcé. Ça peut prendre une année, ça peut prendre une vie, ça peut prendre plusieurs générations.
Ce qui voudrait dire, si je comprends bien ce que tu dis, que finalement, les non-croyants, comme j'aime pas le mot croyant, c'est un mot très mal traduit, mais on se comprend, ceux qui n'ont pas la Emouna, les parlons en hébreu, ceux qui n'ont pas la Emouna sont des gens faibles, donc. Même s'ils sont bourrés de fric, même si ils se font passer pour des... Non, en réalité, intérieurement, c'est qu'une vitrine. Ce sont des gens très faibles. Puisque tu es en train de dire quelque chose d'absolument incroyable. C'est que finalement, le test d'Hachem, c'est pour nous renforcer. Il veut faire de nous des gens forts dans tous les domaines. Donc, ce qui veut dire que quelqu'un qui n'est pas connecté à Hachem, même s'il se crée une vitrine extérieure de je, en fait, c'est un pauvre type qui est faible et qui n'a aucune force intérieure.
C'est à peu près ce que j'ai voulu dire. C'est-à-dire que la théorie dans ce monde ne vaut rien. Il faut la confronter à la réalité de ce monde. Donc l'épreuve qui est envoyée par Hachem, c'est pour voir notre niveau. À quel niveau tu es? Donc il y a le niveau de la crainte, comme vous expliquiez par rapport à Rabbi Nachman, c'est le premier niveau. Après, il y a le niveau de la Emouna. Je vais t'envoyer une épreuve qui va dépasser ton intellect.
Et où tu mets le Emet là-dedans? Je t'ai posé la question, c'est quoi la définition de la vérité? C'est quoi le Emet qui est lié à la Emouna? Comme on l'a vu à la fin du texte, il n'y a pas de Emouna sans Emet.
Donc c'est là que je voulais en venir, c'est-à-dire que le Emet est après la Emouna, si j'ai bien compris. C'est un niveau encore au-dessus de la Emouna, le Emet.
Disons, c'est le moyen d'arriver à la Emouna. Non.
D'accord.
Donc, ils sont tous les deux, on pourrait dire Emet et Emouna, dit Rabbi Nachman dans d'autres textes, c'est comme le couple. Emet, c'est le côté masculin. Et Emouna, c'est le côté féminin. D'ailleurs, ça aussi, il va falloir qu'on l'explique. Parce que ça, il le dit dans de nombreux textes. Emet, la vérité, c'est la dimension masculine. Et Emouna, c'est la dimension féminine. Et ils sont comme un couple. Ça veut dire qu'ils sont au même niveau, puisqu'ils fusionnent et ils deviennent une seule âme, un seul être, dans un couple réussi. Donc finalement, il ne peut pas y avoir de Emouna sans Emet, il n'y a pas de Emet sans Emouna, il n'y a pas de couple sans homme, il n'y a pas de couple sans femme. Le couple, c'est l'union des deux. La Emouna, on a plus ou moins compris ce que c'est. C'est une capacité de se connecter à Hachem au-delà de la compréhension. Même quand, d'une certaine manière, j'ai des tas de questions sans réponse, mais je ne m'écroule pas. Comment tu comprends la notion de Emet, qui est, d'une certaine manière, la garantie que le couple se forme et que se crée l'union entre Emet et Emouna, entre la dimension masculine et la dimension féminine? Comment tu comprends cela? C'est quoi le Emet?
À mon avis, le Emet, c'est la confrontation à la réalité de ce monde. C'est-à-dire, est-ce que tu vas t'effondrer pendant l'épreuve ou est-ce que tu vas surmonter l'épreuve? Et le fait de surmonter l'épreuve va t'apporter la réponse. Le fait de résoudre un problème en mathématiques apporte une réponse. Le fait de se confronter à une épreuve va nous apporter une réponse ou une question supplémentaire. Mais à mon avis, pour moi, le Emet, à mon niveau, je pense que le Emet doit être confronté à la réalité de ce monde. Et c'est là qu'on peut avoir une réponse Emet. Tant que ça reste que théorique, on ne peut pas parler d'Emet.
Bon, alors une fois de plus, tu as 100% raison, c'est un verset explicite qui dit Emet, me'eretz titzmar. La vérité, titzmar, elle pousse à partir de la terre, à partir de la confrontation avec la réalité. Emet, me'eretz titzmar. D'ailleurs, il y a un midrash qui dit que quand Hachem a voulu créer le monde, tu le connais ce midrash, j'ai souvent appris dans mes cours, il a interrogé plusieurs qualités, dont la vérité qui était dans le ciel. Et la vérité dans le ciel, elle a dit à Hachem, ne crée pas l'homme, il va fauter. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a pris la vérité, il l'a jetée à terre. Et à terre, la vérité a dit à Hachem, oui, tu peux créer l'homme. C'est exactement ce que tu as expliqué. Ça veut dire que la vérité, c'est la capacité de se confronter à la réalité et d'être plus fort qu'elle. Emet, me'eretz titzmar. Quand la vérité, elle est dans le ciel, d'accord? Alors, tout est théorique. Alors, bon, ne crée pas l'homme, il va fauter. Mais quand tu es dans la réalité, tu te rends compte que même un homme qui faute n'est pas forcément une pourriture. Parce que c'est ça le monde. Il y a des faiblesses, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui compte, c'est la finalité. Est-ce qu'il reviendra vers Hachem, oui ou non? Tu comprends?
C'est pour ça peut-être qu'on dit que le juste tombe 7 fois et se relève 7 fois. Ça
Ça,
veut
c'est
dire qu'il est obligé de se confronter, de confronter sa vérité à la réalité. Donc il va forcément tomber. Mais c'est la même chose en musculation. J'aime bien faire des rapports avec le corps parce que je trouve ça important. Pour pouvoir prendre de la masse musculaire, il faut détruire les fibres.
on ne doit pas dire et révéler que tu es un très très grand maître en Krav Maga. On ne doit pas le révéler, hein. Ça reste entre nous, hein. Et tu es mon maître en Krav Maga.
À moi, vous m'avez tout appris, hein. Tout. Même le Krav Maga, c'est vous qui me l'avez appris.
Super. Alors continue, vas-y.
Pour détruire donc la fibre musculaire, on va la détruire par des exercices. Elle va se détruire. Et quand elle va se reconstruire, elle va se reconstruire plus forte. Donc la chute, ne craignez rien. On va tous tomber dans un domaine ou dans un
Dans
autre.
le langage chassidique, Yerida Letzorer Aliyah. On tombe pour mieux remonter.
Exactement.
Et
On ne veut pas.
reprends ton exemple de fibre, là, je n'ai pas très bien compris. Explique-moi ça.
Quand on renforce son corps par des exercices, par exemple de musculation,
Oui.
d'accord? Le muscle va se contracter et il va se détruire. Les fibres musculaires vont se détruire. Elles
Oui.
vont se détruire, ce qu'on appelle la phase de catabolisme.
Oui.
D'accord? Et quand elles vont être détruites, on va rentrer donc dans une phase d'anabolisme. Donc là, c'est la vraie destruction. Et quand il y a repos, la reconstruction de ces fibres s'appelle de nouveau une phase de catabolisme, donc de reconstruction. Donc il faut une destruction pour le reconstruire. Il faut que le premier temple soit détruit pour que le deuxième revienne. Il faut que le deuxième soit détruit pour que le troisième revienne.
Un petit peu comme on va dormir, d'une certaine manière on se détruit, on ne fait plus rien, mais c'est pour mieux se reconstruire.
Exactement.
Donc
Donc, on ne doit pas avoir.
ce
On
qui
doit
veut
pas
dire
avoir.
que
Dis-moi.
l'épreuve, la chute, toutes ces notions de tomber sont en vérité un système qui nous reconstruit.
Exactement.
Comme la lune qui, à la fin du mois, disparaît, puis après pour mieux renaître.
Exactement. C'est-à-dire, on ne doit pas craindre la faute. On ne doit pas la chercher. Mais quand elle arrive, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un échec. C'est une confrontation à la réalité. Et quand on va se relever, mais par contre, il faut se relever. On ne doit pas rester dans la chute. On se relève. Et là, on va prendre conscience d'eux. Et on va retomber. Et on va se relever. Et c'est ça qui va nous renforcer. Ça va être une musculation, entre guillemets, de l'âme, du corps et une connexion des deux. Donc la faute fait partie intégrante du projet du créateur. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut craindre le créateur. Mais il ne faut pas en avoir peur dans le sens que ça y a été tombé, c'est fini, j'arrête tout, j'abandonne. J'ai fait un exercice de musculation, j'arrive pas, j'abandonne. J'ai fait un combat de Krav Maga ou de boxe, j'ai pas réussi, j'abandonne. Tu sors du ring, tu vas dans ta douche, tu pleures un peu, tu te relèves et tu vas à l'entraînement. Et on est reparti. Et ainsi de suite. Et c'est que comme ça qu'on va réussir à grandir.
C'est incroyable ce que tu dis, Eliaou, parce qu'encore une fois, je ne sais que confirmer tout ce que tu dis. Nos maîtres disent que le monde a été créé pour la Teshuvah. D'accord? C'est tout ce que tu expliques. Alors, les commentaires posent la question, mais alors si le monde a été créé pour la Teshuvah, il a donc été créé pour la faute, puisque faire Teshuvah, c'est réparer ses fautes. Et nos maîtres disent exactement ce que tu dis. La faute fait partie du processus de Teshuvah. Attention, comme tu l'as précisé, pas je faute et je kiffe, je faute pour revenir. Mais d'un autre côté, si on dit que le monde a été créé pour la Teshuvah, c'est-à-dire que tout le Tahalir, tout le processus de l'histoire et de la construction de l'homme, c'est de passer par la faute pour revenir vers Hachem. Donc la faute fait partie intégrante de la construction de l'homme. C'est fabuleux.
Ce que j'ai pu comprendre de Rabbi Nachman, il dit carrément que pour passer à un palier supérieur, le créateur va te balayer. Il va te faire un fauchage. Il va falloir qu'à un moment, pour que tu passes au palier supérieur, qu'il te fasse tomber. Toi, tu veux pas fauter. Toi, tu veux t'élever. Mais il va te faire une balayette pour te faire comprendre, dans la chute, la force que tu vas utiliser pour remonter va te permettre de passer au niveau supérieur. Et ça, c'est la clé. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas se désespérer. Même si on tombe 1000 fois, plus que le juste, on va toujours se relever. Et ce qu'il attend, le Créateur, c'est qu'on se relève. Ce n'est pas qu'on ne faute pas, c'est qu'on se relève.
Bien
Ça,
sûr.
c'est la réussite.
Qu'on se relève. Oui, c'est ce que dit le verset. Shiva yipol tzadik vekam. Sept fois le juste tombe et se relève. On n'a pas un seul cas dans toute la Torah d'un grand juste qui n'a pas fauté. Chacun à son niveau. Mais ils ont tous fauté. Ils ont tous fauté.
Bien
Puisque
sûr.
Moshe Rabbeinu, bon, ce sont des choses qui sont très mystérieuses, mais au lieu de parler au rocher, à frapper le rocher, ce qui lui a valu de ne pas rentrer en Eretz Israël, et tous les grands, grands tzadikim ont fauté. Et Abraham, il a eu sa propre faute. Quand Hachem lui a dit, je vais te donner la terre d'Israël, il a dit, apporte-moi une preuve que tu vas me la donner. Et quelle est la réponse d'Hachem? Tes descendants seront en exil. C'est une punition parce que tu as osé me demander des preuves. Crois-moi, un point, c'est tout. Même Abraham a fauté. Alors évidemment, ce sont des fautes. Ce n'est pas les fautes que nous faisons, nous. C'est des fautes au niveau de ces justes-là. Mais la Torah a le courage de nous révéler. D'ailleurs, je dis toujours, quelle est la preuve que la Torah est vraie? C'est qu'aucun de nos justes est transformé en Dieu. Ce sont tous des hommes. Et ils ont leur chute, eux aussi. C'est la preuve que la Torah est émette, que la Torah est vraie.
Et vous l'avez expliqué dans le cours avec Madagascar. Vous avez parlé un peu des Gilgoulim, des réincarnations. Mauvaise traduction en français, mais du Gilgoul. Oui. C'est ça le Gilgoul. C'est que même sur Terre, on va tomber, on va se relever. On n'a pas réussi, on va sortir de ce corps et on va revenir, on va recommencer. Donc, c'est tout le but d'un entraîneur. Un entraîneur qui prend un élève, il l'a pris enfant à 5-6 ans, il sait que l'élève, il va d'abord apprendre à marcher, apprendre à se coordonner, apprendre à bouger. Après, au fur et à mesure, il va subir, s'il fait un peu de compétition, des échecs, où il va pleurer. Il va... Mais tout ça est fait pour lui, l'amener à grandir, à se révéler. Mais en aucun cas, un entraîneur peut prendre un élève qui ne fera aucune faute dès le départ. On est tous des élèves du Créateur. Donc forcément, il sait très bien qu'on a une marge de faute pour pouvoir grandir. Ça fait partie du plan. Maintenant, le danger du Yetzer Hara, c'est que lui, il veut te culpabiliser dans la faute pour que quoi, tu ne te relèves pas et que tu restes dans la dépression. Voilà. Lui, il veut...
Attends, on va revenir sur cette phrase-là qui est très importante. Le penchant du mal, tu dis, ce n'est pas la faute en tant que telle, mais c'est le désespoir et l'écœurement de soi-même que le mauvais penchant fait rentrer en toi quand tu fautes. Répète-le, beau fort ça. Alors, vas-y,
et en gros, si je devais le matérialiser, Hachem, qui est l'entraîneur, nous envoie un adversaire. Maintenant que je t'ai fait passer à un degré supérieur, je t'envoie un adversaire. Attention, il est fort. Et c'est Yetzer Hara. Tu vas devoir le combattre. Et ce Yetzer Hara, il va te mettre au sol parce qu'il a un niveau supérieur à toi. Maintenant, ce que lui, il veut pour te battre, c'est que tu ne te relèves pas et que tu restes à ce niveau-là. Mais il est envoyé par Hachem. C'est un de ses meilleurs élèves, d'ailleurs, le Yetzer Hara. Moi, je dirais que c'est un de ses plus grands élèves.
Ce qui veut dire que la faute, ce n'est pas ça le mauvais penchant. C'est le désespoir après la faute qui est le mauvais penchant. Et tu sais quelle est la preuve? Pourquoi le mal est comparé à un serpent? Parce que le serpent, j'ai déjà dit des dizaines de fois, quand il te mord, ça fait mal, mais ce n'est pas ça qui te tue. Ce qui te tue, c'est le venin qui rentre dans le corps et qui, lui, ne te fait pas mal, mais il te tue. Ça veut dire que exactement ça. Dans la faute, il y a l'aspect « je suis tombé », mais ce n'est pas ça la vraie faute. La faute, c'est le désespoir qui va te tuer et qui va te dire « bon, allez, je suis nul, je continue, un point, c'est tout ». Ça, c'est le venin qui est la véritable faute.
On est tout à fait d'accord. C'est pour ça que c'est un des meilleurs élèves du Créateur, le Yetzer Hara. C'est son élite. Il nous envoie son élite. Et à chaque fois qu'on est tombé, il nous le renvoie, ce champion, à un niveau supérieur. Donc ça sera infini. On devra toujours le combattre. Mais c'est un élève d'Hachem. Cet élève-là, il ne veut pas qu'on tombe. Mais c'est sa mission, c'est son rôle. Tu veux grandir, tu veux passer à une ceinture supérieure, je suis obligé de te mettre la tête dans le sol. Maintenant, ce que je vois, c'est est-ce que tu vas te relever.
Tu sais que c'est explicite ce que tu dis, encore une fois, dans un texte du Talmud, un roi qui allait mourir et qu'il avait un fils qui devait être son héritier. Et il voulait le tester pour savoir s'il méritait d'être roi après lui. C'est incroyable, tu vois, ce texte-là, je le connais depuis des décennies, mais maintenant, grâce à notre échange, je viens de le comprendre comme je n'ai jamais compris. Il appelle une jeune fille, mais très bien, très très bien, qui est dans son palais, je ne sais pas, elle travaille dans les cuisines, peu importe, mais une fille bien, mais très très belle. Il lui dit, je veux que tu ailles tenter mon fils. Tu vas t'habiller en prostituée, tu vas aller le tenter. La fille lui dit, mais roi, ce n'est pas moi, je ne peux pas. Il me dit, regarde, si mon fils ne tombe pas, tu deviendras la reine de ce royaume. Je ferai en sorte que vous vous marierez. Ça veut dire qu'en vérité, elle va jouer le rôle du Yetzer Hara, du mauvais penchant, mais au fond, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas faire tomber cet homme-là. Mais qu'est-ce que lui dit Hachem? S'il te résiste et qu'il ne tombe pas, tu vas devenir son épouse. Ça veut dire que le mal, entre parenthèses, va devenir l'épouse du bien. Et finalement, elle est partie le tenter. Il n'est pas tombé. Il s'est enfui. Et finalement, le père en a fait le roi et il l'a marié avec cette femme-là. Tu sais ce que le Talmud nous dit dans cette histoire-là? Que, en fin de compte, quel sera le plus grand ami de l'homme? Le Yetzer Hara. Exactement ce que tu as dit. Tu dis des choses qui sont vraiment écrites noir sur blanc dans le Talmud. Qu'un jour, le plus grand ami de l'homme deviendra le mauvais penchant, parce que l'homme comprendra que le mauvais penchant était un envoyé d'Hachem pour me faire grandir.
Exactement.
Incroyable, hein, incroyable.
C'est ce qu'il attend. C'est-à-dire que cet envoyé d'Hachem, il connaît notre point faible. Parce que Hachem lui a dit, attention, lui, si tu veux le vaincre, son point faible, c'est les femmes. Son point faible, c'est la nourriture. Son point faible, c'est l'argent. Son point faible, c'est la jalousie. Et donc, du coup, il va frapper dans les failles pour nous faire prendre conscience où est notre point faible. Maintenant, Hachem, il te dit, attention, baisse ta garde. Là, tu es ouvert. D'accord ? Au niveau des femmes, il y a un danger. Donc, tu es tombé, relève-toi. Au niveau de la nourriture, je t'envoie le Yetzer Hara. Il va tenter, jusqu'à ce que tu te réveilles. Donc, c'est vraiment, on sent que c'est vraiment, moi, je le ressens comme ça, que c'est un élève d'Hachem. Et du coup, ça change la vision du Yetzer Hara.
On n'est plus à l'école. Un élève d'Hachem, 100% d'accord.
On n'est plus à l'église. Du coup, on n'a plus peur de lui. On sait qu'on va devoir l'affronter jusqu'à la fin de nos jours. Il sera là tout le temps pour nous faire grandir. Mais on n'est pas dans le péché, on n'est pas dans la faute, on n'est pas dans la crainte, dans ces mots-là. Quand j'entends crainte d'Hachem, c'est respect d'Hachem. Si on a un enseignant, un maître, ou si on prend conscience de l'univers, des forces de la nature, qui est la Teva, qui est une main d'Hachem, on a une crainte parce qu'on se dit c'est grand. Et c'est comme quand on rentre dans un dojo et dans une salle de boxe pour la première fois. On sent, on a une crainte. On a une crainte, on a un respect. Et jamais quelqu'un va rentrer dans une salle de boxe en manquant de respect. Ça n'arrive pas. Parce qu'on sent qu'on est face à une force. Maintenant, vu qu'Hachem se dissimule et qu'il est le meilleur enseignant, il nous laisse croire que. Il nous laisse penser qu'il n'est pas là. Mais il nous envoie toujours des petites étincelles. Et là, on revient à la crainte que vous expliquez depuis le départ. C'est qu'en gros, la première crainte, c'est l'éveil de la conscience. Maintenant, tu peux devenir un élève, tu peux rentrer dans cette salle de boxe. Maintenant, je vais t'éprouver. Tu vas aller au sac, tu vas faire de la corde, tu vas te rendre compte que le cardio, c'est difficile. Tu vas te rendre compte qu'il va falloir bien dormir. Tu vas te rendre compte que tu vas prendre un coup, il va falloir que tu te relèves. Ça, c'est la crainte, entre guillemets, de ce qu'on a expliqué, de la punition. Maintenant, quand on passe à un stade supérieur, maintenant que tu es devenu un combattant et qui est aguerri, je ne vais pas t'attaquer sur le ring. Je vais t'attaquer dans la vie. C'est pour ça qu'on voit plein de grands combattants comme Mike Tyson, par exemple. Sur le ring, il n'a pas été vaincu. Il a été vaincu par son promoteur qui l'a escroqué, vaincu par une femme qu'il a accusée de viol. Donc, il a été vaincu en dehors du ring. En fait, le combat n'est pas fait pour le ring et le combat en lui-même. Il est fait pour les chemins de la vie. Si tu es un bon combattant, tu dois être capable de vaincre maintenant ton ego. Et je vais t'envoyer d'autres choses à côté qui vont te permettre de te renforcer. Pas détruire, cogner, frapper pour rien. Et quand tu seras à ce niveau, là, tu vas pouvoir affronter les tyrans. On l'a vu, Moshe Rabbeinu, c'était un vrai combattant.
David Améler. David Améler, bien sûr.
C'est un vrai combattant. C'est des vrais combattants.
On le disait la semaine dernière, si je ne me trompe pas, Eliaou, tous les justes cités dans notre Torah étaient tous des guerriers combattants. Avraham s'est battu contre les quatre rois qui ont kidnappé Lot. Yitzhak, à sa manière, il était prêt à donner sa vie à Hachem. Ça veut dire, Yaakov, il s'est battu avec Laban, il s'est battu avec Esav, il s'est battu toute sa vie. Moshe, n'en parlons pas, et Yoshua, la conquête de la terre d'Israël, et après, tous les juges, ce qu'on appelle les Shoftim, étaient tous des chefs d'armée. C'est-à-dire que la Torah ne conçoit pas un croyant qui n'est pas un guerrier. Ça veut dire que c'est l'absolu contraire de tout ce que les religions nous mentent depuis des millénaires.
C'est la doctrine judéo-chrétienne qui a amené « on me frappe, je tends l'autre joue ». Donc en fait, ça s'est ancré dans l'esprit pour affaiblir l'être humain. Alors attention, le combat ne se gagne pas que par les armes. On peut gagner un combat par les mots, on peut gagner un combat contre soi-même, on peut gagner un combat contre son ego, on peut gagner un combat contre la nourriture. Mais dans le sens qu'il faut combattre. Et le combat est bon. Et c'est pour ça qu'on voit que deux grands combattants qui s'affrontent, normalement, si c'est des vrais combattants, il y a un vrai respect. Il y a un respect.
Bien sûr.
Il y a un respect.
On le voit beaucoup d'ailleurs ça, d'Afrique chez les Asiatiques. On le sent très fort. Ça m'est arrivé de voir quand même pas mal de combats comme ça entre les Asiatiques. Et je vois qu'on sent qu'il y a... ils se cognent terriblement dur. Mais il y a un respect, c'est vrai. On sent, et ils font comme ça juste avant le combat, etc. Et, Et on le sent très fort.
Il y a un respect, c'est comme deux maîtres ou des élèves qui vont étudier la Guémara. Ils s'affrontent, donc il y a un combat d'idées, mais un bon combat qui élève.
Dans le respect.
Dans le respect, c'est la même chose. Deux armées qui s'affrontent ou deux combattants qui s'affrontent, c'est un langage. C'est pour ça qu'on dit les arts martiaux. C'est l'art de faire la guerre. Ce n'est pas je tue comme ça et je n'ai aucune conscience de ce que je suis en train de faire. J'apprends le combat à un très haut niveau, d'une, pour jamais m'en servir. Mais s'il n'y a plus le choix, qu'on a tout essayé, la parole, les traités de paix, et ça ne marche pas, on n'a plus le choix. On est obligé de défendre les familles et défendre la paix, une vraie paix. Là, qui veut la paix prépare la guerre. C'est une phrase qui est connue souvent. Si tu veux une vraie paix durable, le shalom, il faut être capable de savoir faire la guerre si tu n'as plus le choix.
Une dernière question, Eliaou, parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps. On a expliqué, enfin, ce n'est pas dans ce texte-là, mais c'est dans d'autres textes, que Rabbi Nachman compare la vérité à la dimension masculine et la Emouna à la dimension féminine. Comment tu conçois les choses? Pourquoi la vérité serait l'homme masculin et pourquoi la Emouna serait la femme féminine? Qu'est-ce qu'on doit comprendre là-dedans? Comment tu vois ça? Ce n'est pas dans ce texte, encore une fois, mais Rabbi Nachman le dit dans des tas d'autres textes, dans l'Likutei Moharam. Dimension masculine, c'est le couple. Emet et Emouna, c'est le couple sacré, dont le représentant dans ce monde, c'est un couple réel. Et l'homme est censé plus incarner la vérité et la femme plus la Emouna. Alors, avec la permission, je voudrais juste donner mon point de vue très, très schématiquement. Et après, on le développe. Quand je dis vérité, l'homme représente la vérité, ça veut dire que, je dirais comme ça, l'homme est censé, au sein du couple, on pourrait dire, proposer des projets. Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense que ça, c'est bien. Mais le problème est que quoi que tu fasses, tu auras toujours des difficultés et des épreuves qui peuvent te mettre à genoux. Et là, tu as besoin de l'épouse qui, elle, représente la Emouna pour t'aider justement à ne pas tomber, à ne pas te désespérer. Parce que bon, avoir la capacité de trouver le projet qui nous correspond, c'est une chose. Donnons un exemple très simple. Voilà, on avait une bonne situation en France, on vivait en France, on était à Paris, on était peu importe, etc. On travaillait tous les deux, on gagnait très bien notre vie, on décide de monter en Israël. C'est un projet vrai. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que tout le monde sait qu'une fois que tu arrives en Israël, waouh, ce que tu vas traverser. Alors là, tu as besoin d'un soutien qui est la Emouna. Ça va venir du côté féminin. Ça veut dire que la dimension masculine, c'est celle qui trouve le vrai projet. La dimension féminine, c'est celle qui te permet de ne pas abandonner le projet que tu as choisi. Comment tu comprends, toi?
Alors, on pourrait peut-être comparer ça, le émet au cerveau. Donc, l'homme, il est beaucoup plus cérèle, il est beaucoup plus dans la réflexion, qui peut être froide même des fois. Et on pourrait dire que la femme est liée au regesh, comme vous enseignez, donc elle serait beaucoup plus sur l'émotion. Donc, le émet, c'est, voilà, j'ai une idée. Je pense que cette idée, elle est juste, elle est vraie, j'y vais. Maintenant, le regesh, donc la dimension féminine, elle va éprouver tes émotions. Maintenant, tu as un projet, tu veux le mettre en place, ok, dans le cerveau, ça paraît super, tout va bien, tout est mis sur
pied. Parce que ça reste théorique, la dimension masculine est beaucoup plus théorique.
Voilà, la femme, on le sait très bien, elle est terre à terre. Nous, quand on rêve et quand on plane, elle nous redescend sur terre. Ok, d'accord, mais il faut penser à ça, il faut penser aux courses, il faut penser à ci. Donc, elle nous redescend dans la réalité de ce monde. La femme, c'est la malroute. Donc, maintenant, on va voir si tu as la Emouna de traverser toutes les épreuves de ce monde en fonction de l'idée que tu as eue. Tu as le plan, ok. Maintenant, on va voir si tu es capable de réaliser ce plan. Et c'est le but de la Emouna, parce que tu vas te confronter à la lourdeur de cette terre, à la lenteur de la terre. Ça demande du temps, ça demande d'être patient, ça demande de tomber, ça demande de se relever, ça demande de se confronter à... Ça ne se passe pas toujours comme on veut. Et c'est là que la Emouna va prendre le dessus. Est-ce que ton idéologie est assez grande pour prendre le dessus?
Donc finalement, pour conclure, Eliaou, au niveau de notre relation avec Hachem, la vérité serait de faire le juste choix d'arrêter de vivre comme un animal, mais la Emouna, serait cette force qui nous permet de ne pas renoncer au choix qu'on a fait. Parce que c'est beaucoup plus facile de vivre comme un animal que de vivre comme un être humain. Donc une fois que tu as fait le choix de vivre comme un être humain et que là, tu es sous le regard d'Hachem et automatiquement, tu vas vivre des tensions énormes, comment tu vas tenir? Tu as besoin de la Emouna. Ça veut dire que, si, en vérité, la dimension féminine, c'est celle qui soutient le choix vrai. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est appelée Ezer. Elle est appelée Ezer. Ezer. Et pourquoi Ezer Kenegdo, dans le cas de ce qu'on a dit? Parce que quand tu vas te désespérer, elle est là pour aller contre toi et te renforcer. Donc, elle est ton aide qui va contre toi lorsqu'elle sent que tu vas lâcher. C'est ça la dimension féminine.
Elle veut même tester, voir si tu es au-dessus de la nature. Puisque le plan d'Hachem est de s'élever au-dessus de la nature. On voit la mer qui s'ouvre, les 10 plaies. On doit toujours essayer d'être au-dessus de notre nature humaine, donc de révéler notre âme divine. Donc elle va être là pour te tester, voir est-ce que tu retombes dans ta nature, donc est-ce que tu te comportes comme un animal, dans tes lois naturelles, ou est-ce que tu es capable de t'élever au-dessus de la nature. Et moi, je suis là juste pour te révéler ça, pour voir si tu arrives. Je suis là pour t'aider dans ce chemin-là.
Magnifique. Très, très bien, Eliaou. Donc, on se retrouve vraiment pour un autre texte. C'est un texte magnifique qui a été le... On a fait donc trois cours sur ce texte-là, il me semble. Hein. Trois cours.
C'est le troisième. Voilà.
Et on va prendre un autre texte, peut-être un peu plus long pour la prochaine fois. Ça nous permettra de faire de nombreux cours dessus. Et merci beaucoup. Et on continue. On n'a fait que commencer. On continue, comme on dit, dans ce monde et dans l'autre monde.
Alors justement, Rav, j'aimerais juste pour les gens qui nous écoutent,
oui,
vu qu'on a échangé, on a entraîné le général, donc le cerveau, maintenant, il faut que chacun, après un cours comme ça, ait une capacité d'agir. Peu importe qu'il choisisse un domaine, ça peut être vaincre sa passion pour la nourriture, ça peut être vaincre sa paresse, ça peut être vaincre son lachonara, ça peut être vaincre ses pensées négatives. Mais il faut être capable, après des cours comme vous faites, d'agir. Il faut prendre sur soi une petite action qu'on va tenir jusqu'au prochain cours pour s'éprouver. Et surtout dans cette période-là, si on n'agit pas, vous allez perdre la boule. Si vous ne vous entraînez pas, si vous ne bougez pas, si votre corps reste que dans la réflexion, vu ce qui est en train de se passer dans le monde en ce moment, il faut que votre corps agissent. Il faut que vous preniez des actions qui soient lumineuses. Donc, je vous lance un appel de prendre une action, celle que vous désirez.
Et de travailler dessus.
Voilà. Et d'avancer avec des vraies actions, pas juste de la théorie, j'ai fini le cours et je retombe dans ma vie comme si j'avais tout oublié.
Merci beaucoup, Eliaou. On se retrouve très, très, très prochainement.